Nous allons à la rencontre de Madame TGV dans 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, dont nous lisons les versets 18 à 31. 1 Samuel 25, versets 18 à 31. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, même le moindre de tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute la parole de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent, ce cadeau, cette bénédiction, littéralement, que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni trébuchement de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » Nous allons dans l'Épître aux Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Éphésiens 4, nous retenons là aussi, en toile de fond, la lecture que notre frère a faite il y a un instant, puisque c'est sur cette toile de fond qui va se prolonger 3 chapitres durant, de plus en plus claire, explicite, précise, qu'ensuite est campé le portrait du disciple de Jésus-Christ dans le cadre de l'Église, selon le cœur de Dieu. Verset 25 du chapitre 4, c'est pourquoi, à cause de ce dépouillement de tous les oripeaux de la vieille nature liés la croix sur laquelle le Christ a porté nos péchés, à ce revêtement de l'homme nouveau évoqué au verset 24. C'est pourquoi, à cause de cela, renoncez aux mensonges. Et disons-le, le terme est très vigoureux dans le texte original. Pensez aux martyrs du premier croyant de l'Église de Jésus-Christ, Étienne, lorsque les faux témoins se précipitent pour le lapider, ils arrachent dans leur haine leurs propres vêtements qu'ils vont jeter aux pieds de cet autre témoin, futur disciple de Jésus-Christ, qui est le rabbin Saul de Tarse, n'est-ce pas ? Le terme utilisé est le même. Ils se débarrassèrent de leurs vêtements. Vous les imaginez, ils n'ont pas pris le temps de les plier comme une bonne maman le fait quand elle est en train de faire du repassage. Hein. Ils se sont débarrassés de leurs vêtements. C'est le terme qui est utilisé ici. C'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ce n'est pas le même mot, hein, sur votre irritation. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait, on pourrait traduire que celui qui avait l'habitude de dérober, parce que le verbe est conjugué d'une certaine manière, ne dérobe plus, mais qu'il travaille de manière continuelle, qu'il ait l'habitude du travail, en faisant de ses mains ce qui est bien, qu'il peine même littéralement, qu'il y mette son cœur, qu'il en paye le prix. Ceci pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, aucune parole pourrie. L'image est celle d'un fruit qui est en train de se décomposer. Hein. Donc une parole pourrie. Mais s'il y a lieu, ou plutôt selon le besoin, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire pour le jour où votre salut sera acquis dans sa totalité, puisque nous ne sommes sauvés qu'en espérance, étant encore enfermés dans un corps qui n'est pas notre corps de résurrection. Et notre salut sera acquis à son summum, dans sa totalité, lorsqu'enfin nous aurons revêtu ce nouveau corps de résurrection. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, nous reviendrons sur ces termes, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant, vous faisant grâce, réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous avons considéré hier matin les circonstances de cette première rencontre, quelque peu particulière et tumultueuse à certains égards, entre David, Monsieur TGV, mais dans le sens négatif que nous voulons donner à cette expression, et celle que nous allons découvrir ce matin comme Madame TGV, non pas Mademoiselle, j'ai été quelque peu troublé à un moment donné hier dans mes pensées par la polygamie de David, qu'est-ce que vous voulez, comme il se marie après, je me suis dit elle est célibataire, or elle était déjà mariée. Et vous vous souvenez de la sainte colère de David, sainte entre guillemets, tout simplement parce qu'il la légitime, il lui donne un label religieux. Il lui semble qu'elle émane de Dieu puisqu'elle s'inscrit dans la logique de la justice. David se présente comme le champion de Dieu, le justicier de Dieu en action face à ce fou, à cet insensé. Nabal dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ingrat à l'égard de Dieu, insensible à l'égard de son prochain. Et nous avons donc terminé hier matin en évoquant le caractère révolutionnaire et du message et de la vie qui démontrait le message, la vie du Seigneur Jésus au niveau du caractère. Nous avons vu d'un côté la mégalopsychia, la grandeur d'âme, cette vertu exaltée au plus haut point dans tout l'Empire romain, là où l'humilité est bassesse, là où il faut venger absolument l'honneur bafoué, et puis la beauté du Seigneur Jésus, dans la longueur d'âme, dans la patience, dans l'amour constant, persistant, tenace, qui continue à pardonner, à faire le bien, même dans les circonstances les plus adverses, malgré le pouvoir que Dieu possède de la vengeance la plus immédiate. Longueur d'âme face à la grandeur d'âme. Et nous nous sommes séparés hier matin sur cette grande question, comment réagissons-nous face aux injustices qui nous atteignent personnellement? Et c'est donc maintenant qu'Abigail entre en scène. Et Abigail va faire une démarche que son fou de mari aurait dû faire en réalisant sa folie. Et c'est d'ailleurs là tout l'intérêt d'un Samuel 25 qui fait que nous pourrions passer encore quelques jours ensemble simplement sur ce chapitre, parce qu'il est d'une richesse liée à certains aspects de sa complexité. Hein, nous le remarquons, cela crève les yeux. Voilà donc une femme épouse innocente qui n'était pas du tout au courant de ce qui était en train de se passer, puisqu'elle le dit au verset 25, « Moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. » Elle était occupée ailleurs. Elle ne pouvait donc pas intervenir pour rattraper la situation avant que les serviteurs de David soient repartis. Et pourtant, vous remarquez avec quelle insistance elle prend sur elle la faute de son mari, verset 24a, se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute, mon Seigneur !» Et le clou va être enfoncé, puisqu'au verset 28, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante !» Et elle se répète, pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Combien cela est beau. Oh, on comprend qu'elle le fasse. Puisque la vie de toute la maisonnée, depuis l'aîné jusqu'au plus petit, toute la domesticité incluse, la vie de tous est en danger. Et elle sait qu'il s'écoulerait peu d'heures si elle n'était intervenue avant qu'il y ait un bain de sang absolument fatal. Elle est mariée. Et elle a cette attitude qui fait d'elle une femme de bon sens, attitude équilibrée, faite à la fois de lucidité à l'endroit de son mari et de générosité dans sa solidarité sur ce plan-là, prenant sur elle le péché de son mari. Lucidité, ai-je dit, puisqu'elle va clairement exprimer ce qu'elle a constaté chez son mari, n'est-ce pas, que mon Seigneur, verset 25, ne prenne pas garde à ce méchant homme, à ce vaurien de Nabal, dira une version, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et c'est important. Parce que vous savez qu'il existe parfois dans le couple des sortes de solidarité et de complicité coupable. Ou au contraire, on ne veut pas voir et reconnaître le problème de l'autre. Et ce n'est pas un amour venant d'en haut que cet amour non lucide qui va systématiquement prendre la position du hérisson chaque fois qu'apparaîtra le mauvais côté du conjoint. Mais équilibre chez Abigail en ce sens qu'en même temps elle se sait mariée à lui. Et donc qu'il arrive aussi à un moment où il faut accepter de plaider coupable à cause de l'autre. Ça, c'est le triomphe de la grâce. Ce regard à la fois lucide, mais à quelque part solidaire de la bonne manière, pour sauver le foyer. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Dieu nous dit dans sa parole qu'Abigail est femme de bon sens, parce qu'elle sait marier ce qui est si difficile à marier dans nos vies relationnelles, dans nos vies conjugales, dans nos vies familiales en ce qui concerne notre relation avec nos enfants, lorsque grandissant et nous échappant, il ne tourne pas forcément comme nous le souhaiterions. Et où l'amour lucide et douloureux doit reconnaître, accepter que ceux qui sont un peu notre devanture ne soient pas forcément la devanture aussi belle que nous le souhaiterions. Mais amour en même temps plein de grâce qui nous conduit à cette même attitude que celle d'Abigail, à parfois savoir plaider coupable pour les sauver. Pour les sauver. Plaider à leur place. Combien cela est important. Elle prend sur elle la faute de son mari. Elle endosse sa folie. Elle se substitue à lui alors qu'elle n'est pas coupable. Et en cela, elle devient, à l'instant même où elle le fait, un type de Jésus-Christ. Elle préfigure mon Sauveur. Elle annonce celui qui a pris sur lui mes fautes. Ésaïe 53. L'agneau de Dieu, innocent et sans tache, sans défaut, et qui se substitue à moi. Elle me rappelle l'histoire de ce touriste qui arrive dans un village ou une petite ville dans un pays scandinave et qui découvre, en visitant le village, un agneau sculpté au sommet du clocher. Et intrigué par cette découverte, parce qu'il n'a jamais vu cela jusqu'à présent dans sa vie, il interroge les gens du village. Et les visages s'illuminent lorsqu'on lui pose la question. Et quelqu'un lui explique que lors de la construction de l'édifice, et en particulier en arrivant très haut dans cette construction, au niveau du clocher, l'un des ouvriers, subitement, est tombé en arrière depuis l'échafaudage. Et ses compagnons de travail se sont dit, en dégringolant le plus vite possible, n'est-ce pas, pour atteindre le niveau où il était tombé, ils se sont dit, mais nous n'allons récupérer qu'un cadavre. Et en réalité, à leur grande surprise, arrivé au niveau de la chaussée, ils le voient qui se relève, quelque peu commotionné, qu'il ne le comprendrait pas, mais en fait, il n'est pas blessé. En regardant de plus près, il découvre qu'à l'endroit d'où il vient se lever, se trouve un agneau écrasé. Tout simplement parce qu'un troupeau de moutons passait par là, juste au moment où l'homme chutait en arrière, il tombe sur un agneau du troupeau, l'agneau meurt, il y trouve la vie. Et c'est pour cela que, en souvenir de ce secours providentiel de Dieu, on a décidé de sculpter un agneau là, au sommet du clocher. Voilà le beau témoignage de notre amie Abigail. Elle marche curieusement, à l'avance, quelques 1000 ans à l'avance, sur les traces de celui qui pourtant va venir plus tard, le Fils de Dieu, notre Sauveur, le grand substitut qui a pris sur lui chacune de nos fautes. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Et s'il faut ajouter quelque chose, c'est qu'elle va immédiatement faire réparation. Ceci nous est dit au verset 27. Accepte ce présent ou ce cadeau, littéralement cette bénédiction que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Et sa réparation, cette bénédiction réparatrice et généreuse, puisque nous en avons lu l'énumération au verset 18, 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Réparation. Le but de la réparation, bien entendu, n'est pas, en quelque sorte, d'acheter le pardon. Aucune réparation ne saurait acheter le pardon. Le pardon, c'est l'exercice de la grâce, de la générosité à l'endroit de celui qui a totalement démérité. C'est vraiment l'acte gratuit dans le sens le plus absolu de ce terme gratuit, et nous avons beaucoup de peine avec ce mot gratuit parce que dans nos chromosomes naturels, nous avons toujours envie de payer. Et nous avons de la peine avec le pardon parce que nous pensons toujours que finalement, ensuite même, notre bonne conduite peut devenir un moyen de payer le pardon que nous avons reçu. Donc la réparation ne saurait être un achat du pardon, mais elle s'inscrit tout simplement dans la restauration de la justice. Justice doit être rétablie dans la mesure du possible, parce qu'il est des réparations impossibles. Si vous avez tué quelqu'un, comment voulez-vous réparer ? Mais là où la restauration de la justice est possible, il faut le faire. peut-être aussi avec le secours des nés dans la foi qui, dans certaines situations, pourront nous conseiller ou prier avec nous, parce que c'est parfois délicat. Et puis, restauration aussi de la confiance. Et c'est ici qu'il nous faut rappeler quelque chose d'important, à savoir la différence entre pardon et réconciliation. Le pardon est effacement de la faute. Le pardon est remise de la dette. Nous l'avons vu un peu comme un acte juridique officiel qui est enregistré dans le ciel s'il est vécu dans la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Mais il n'en est pas ainsi de la réconciliation, puisque la réconciliation est la restauration d'une relation qui a été blessée, qui a été entamée. Il faut que l'inimitié soit supprimée, et pour que cette inimitié soit supprimée, bien sûr, il faut d'abord que la dette soit effacée. Une fois que la dette est effacée, je ne tiens plus compte de ce que tu as fait, je veux t'aimer et je désire de tout mon cœur reconstruire ma relation avec toi. Mais s'il y a réparation de l'autre côté, bien entendu, cela va être une aide dans la reconstruction de la relation. Cela demande un effort. Cela va prendre parfois du temps. À cause de la gravité, éventuellement de la répétition des fautes dans le passé. La blessure est peut-être profonde. Et la réparation fait partie de ces éléments reconstructeurs de la relation. L'offenseur doit prouver par sa volonté de réparer le mal qu'il a fait qu'il est digne de confiance et que la relation restaurée n'est pas un piège pour l'offensé. Voyez-vous, tout cela, une fois de plus, nous l'avons déjà dit dans une autre application tout à l'heure, parce que l'amour qui pardonne doit rester lucide. L'amour qui pardonne n'est ni aveugle ni naïf. L'amour qui pardonne, c'est aussi l'amour qui a une colonne vertébrale. On le voit dans Galates 5, 22, nous aurons bientôt l'occasion d'y revenir. Et dans 1 Samuel chapitre 26, nous en avons une démonstration. Vous vous souvenez de cette histoire dont nous avons lu le début? Ces objets que David va prendre, cette cruche et cette lance, se tenant ensuite bien à l'écart de Saül, l'appelant pour lui donner la preuve qu'il ne portera pas sa main sur loin de l'Éternel et qu'il veut riposter à la haine de Saül par cet amour constant jusqu'à ce que Dieu lui-même fasse justice, n'est-ce pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est le verset 17, les versets 17 et suivants d'un Samuel 26. Saül reconnut la voix de David et il dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon seigneur. Et il dit, pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? De quoi suis-je coupable? Que le roi, mon seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre, loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce. Comment chasserait une perdrix dans les montagnes? Et alors Saül réagit. Hein? Saül dit, verset 21, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux, j'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. Et David courut vers lui pour lui serrer la main. C'est ça? C'est ce que dit le texte. Vous avez remarqué, Saül lui dit « Reviens !» et David refuse de revenir. Il prend des précautions. David répondit verset 22 « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. » Lucidité de l'amour. David est animé d'un esprit de pardon, mais il connaît le bonhomme. Le bonhomme n'a donné aucune preuve qu'on soit en sécurité en revenant auprès de lui. Une fois de plus, cet équilibre permanent des Écritures, n'est-ce pas? Je veux bien pardonner, mais il faut reconstruire une relation. Et la relation se reconstruit dans la mesure où de l'autre côté, il y a un effort. Moi, ma motivation profonde, c'est vraiment la restauration de la relation. J'en ai le désir profond. Il ne s'agit pas que là, nous ayons des réserves mentales. Hein. Nous disons « je te pardonne, mais tu sais, au fond de moi-même, je ne te pardonne pas », ça ne marche pas. Ça ne marche pas. De mon côté, j'ai vraiment le désir que la relation soit restaurée. Mais cela nécessite des précautions. Parce qu'il faut aussi que de l'autre côté, il y ait les preuves que la confiance peut être rétablie. Hein, si quelqu'un vous a menti 36 fois comme il respire, il est évident que ensuite vous allez vous dire « Mais ben, maintenant, est-ce qu'il me dit la vérité ou non ?» Comment est-ce que je peux avoir la preuve qu'il me dit la vérité? Ben, il faut quand même que pendant un certain temps, tout en lui faisant comprendre mon désir sincère, vraiment, que nous puissions retrouver une vraie relation, il faut que je lui fasse comprendre que maintenant, ben, il faut quand même qu'il fasse un petit peu ses preuves. C'est de l'amour. Et c'est ce qui, à un autre degré, dans l'église locale, s'inscrit dans le registre de la discipline d'église. Trop souvent, il y a des guerres dans les églises locales parce que des membres de l'église ne comprennent pas un conseil d'anciens qui a dit dans cette situation, il faut un temps de précaution. On dit, ah ça c'est manqué d'amour, faut pas juger. Donc on devrait tout de suite rétablir la personne dans toutes ses bénédictions, dans toutes ses responsabilités. Mais non, ça ce n'est pas de l'amour lucide. Ce n'est pas de l'amour d'en haut, c'est de l'amour d'en bas. Ce n'est pas de la sagesse d'en haut, c'est de la sagesse d'en bas. N'est-ce pas? Et notre problème, c'est que trop souvent, quand nous nous convertissons à Jésus-Christ, nous ne faisons que sublimer notre amour terrestre. Hein? C'est-à-dire, nous l'élevons simplement un peu à un plus haut niveau, nous le teintons de religion, alors qu'en réalité, Dieu veut nous remplir par le Saint-Esprit et développer en nous le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire un amour qui vient du cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu n'a pas le même amour que notre cœur. Hein? Pas du tout. Alors souvenons-nous de ceci, parce que c'est extrêmement important. Réparation, réparation. Réparation généreuse. Parce qu'elle est aussi le signe que ben, nous ne sommes pas avares dans notre désir de reconstruire. Nous ne sommes pas des harpagons, n'est-ce pas? Je pense ici à cette petite anecdote de deux gamins qui se rendent chez le fleuriste avec leur papa. Et l'un des garçons désigne du doigt un petit bouquet à la vendeuse. Et cette dernière lui demande s'il s'agit d'un événement spécial et s'ils ont besoin d'une petite carte, bref, d'un emballage un peu particulier. Et c'est après une seconde d'hésitation que le père répond « Non, non, ce n'est pas nécessaire. » L'autre garçon se tourne vers le vendeur et lui dit « Mais... » et vers le papa, il lui dit « Mais si, papa, tu sais bien, c'est un événement spécial !» Et il se tourne vers le vendeur et il explique « Vous savez, maman est vraiment très fâchée contre nous !» Donc il fallait que la réparation soit marquée d'une dimension toute particulière. J'ai sous les yeux la lettre, c'est authentique, d'un garçon âgé de 8 ans adressée à la présidence de la République française. Je la cite d'ailleurs dans un de mes livres. À Sa Majesté le Président de la République. Ça fait bien, hein? Pas de commentaire, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il rectifie après. Bon. Il n'y a pas très longtemps, j'ai collé deux timbres déjà utilisés sur une enveloppe. Je ne sais pas si je l'ai fait plus de deux fois, mais je crois pas plus de trois fois. Depuis, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et je vous renvoie 12 timbres, pour être bien sûr. Je vous demande de me pardonner, Votre Majesté. Et je vous promets de ne plus recommencer. Réparation généreuse. Réparation généreuse. Elle réagit vite. Ah, ça y est, Madame TGV. C'est ce qui m'a bouleversé dans l'étude de ce texte. C'est lorsque je me suis subitement rendu compte qu'il y avait comme une espèce d'ossature qui parcourait tout le chapitre. Ça commence au moment où elle apparaît de manière très nette dans le texte, verset 18. Abigail prit vite 200 pains, 2 outres de vin, etc. Cela continue avec le verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba sur sa face en présence de David, etc. Cela continue ensuite, je suis en train de chercher, au verset 34. Oui, verset 34, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant, si tu n'étais vite venu au-devant de moi... » C'est chaque fois le même mot, hein, alors parfois rendu un peu différemment d'une version à l'autre. Hein. « Il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. » Et puis enfin, verset 42, « Abigail se releva vite et partit monter sur un âne. » Vite, vite, vite. Madame TGV, mais attention, Abigail ne confond jamais vitesse et précipitation. C'est encore une des raisons pour lesquelles elle est appelée dans les Écritures femme de bon sens. Regardez la différence. Au verset 19, lorsqu'elle est prête de partir, n'est-ce pas ? Elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Moi, je ne sais pas comment nous aurions réagi. En tout cas, comment j'aurais réagi. Vous découvrez, en l'espace de quelques instants, que votre conjoint vient de mettre toute votre maison en péril extrêmement grave, et vous ne lui dites rien. Vous vous rendez compte? Moi, je sais en tout cas ce qui m'aurait démangé, ça aurait été de sortir de mes gonds et d'aller lui passer un bon savon. Lui, mais écoute, est-ce que... mais vraiment, t'es un insensé, une fois de plus, ça ne change pas, ça a toujours été comme ça. Mais non, elle se tait. Et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel chez Abigail, puisque au verset 36, il est écrit « Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi, il était gai et même complètement ivre. » Dites-moi, qu'auriez-vous fait en rentrant, après avoir échappé de peu à la mort? Après cette confrontation, disons-le quand même, ça ne devait pas être très agréable pour Abigail de faire la démarche qu'elle a dû faire. Elle ne l'a quand même pas fait de gaieté de cœur. Alors vous savez, quand on vit de telle situation, qu'on rentre chez soi et qu'on découvre en rentrant à la maison que le conjoint est en train de faire bombance, n'est-ce pas, avec tous les copains, lui qui n'était pas capable de donner quoi que ce soit aux serviteurs de David, maintenant le vin coule à flot et tout le reste, plus que généreusement, et en plus il est complètement gay. Eh bien, le texte nous dit, elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Alors, vous me direz, c'était facile pour elle, il était ivre. Ah oui, c'était facile. C'était si facile que ça. Il en est des maris ou des femmes ivres qui se sont faits. Je n'utilise pas le mot. Même dans leur ivresse. Parce que le conjoint a éprouvé le besoin de vider son sac, n'est-ce pas? Qu'il comprenne ou non, peu importe, il faut que je le lui dise. Il faut que je me décharge. Puis c'est à la mode, ça. Paraît qu'il faut se décharger aujourd'hui. Alors le bon sens d'en haut, la sagesse d'en haut ne veut pas que nous obéissions sur ce point à certaines règles psy qui nous disent que nous devons vomir tout ce que nous avons dans le cœur. L'essentiel, allez, il faut être transparent. C'est pas de la transparence, ça, c'est de l'assassinat. Ça veut dire que nous sommes égoïstes, que notre seule préoccupation, c'est d'être bien à l'intérieur. Tant pis pour les autres s'ils encaissent, n'est-ce pas? Et nous, nous savons que nous n'avons même pas besoin d'aller transférer chez le psychiatre. Nous pouvons transférer là-haut, quelqu'un à portée. Nous pouvons tout lui dire. Le Seigneur n'est jamais choqué. Nous pouvons tout lui dire. Le texte ne nous le dit pas, mais il se pourrait qu'elle ait dit au Seigneur bien des choses, à l'Éternel. Parce que c'était une femme pieuse. Elle le dit, n'est-ce pas? Elle reconnaissait déjà David comme le futur roi, là où d'autres ne le reconnaissaient pas. Donc elle avait le souci d'être dans la volonté de Dieu concernant la direction de son pays. C'était une femme de Dieu. Et j'imagine que tout ce qu'elle n'a pas pu dire à son mari, elle l'a dit à Dieu. Et elle a fait ce que Jésus a fait, quand lors de ce que nous appelons la semaine sainte, il est entré, Jésus, peu avant sa mort, il entre le jour des rameaux, dans l'enceinte de l'ensemble du temple, il voit le commerce odieux qui s'y déroule, et il fait rien. Il regarde attentivement, il sort, et il va passer la nuit à l'écart. Et là, nous sommes certains qu'il a rencontré le Père, parce que ses heures étaient très dures. Et c'est seulement le lendemain matin qu'il revient au même endroit et qu'il va chasser les vendeurs, n'est-ce pas? Il a pris le recul, il a parlé avec le Père, il a reçu les instructions du Père. Et le résultat, c'est que lorsqu'il va intervenir dans cette situation terrible, cette caverne de voleurs, tous ses actes seront empreints de ce fruit de l'esprit qu'est la force intérieure, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Il suffit d'analyser le texte pour voir qu'il n'y a pas une colère dans laquelle le Seigneur Jésus sort de ses gonds et fait n'importe quoi. Il sait faire des différences. Il est rempli de manière parfaite de l'Esprit de Dieu. Elle réagit vite, promptement. Accorde-toi avec ton adversaire promptement. Promptement. Matthieu 5, nous l'avons lu au verset 25 hier. Parce que la démarche du pardon et de la réconciliation est urgente. Et là, bien entendu, elle était particulièrement urgente. Madame TGV a engagé une véritable course contre la montre pour éviter des dégâts terribles. Et là encore, elle a eu la sagesse dans sa relation avec David, de lui faire part des dégâts, non seulement à court terme, mais à moyen et à long terme. C'est-à-dire que c'était une femme qui voyait plus loin que le bout de son nez. Et elle voyait plus loin que sa propre famille et leurs propres intérêts. Ça, c'est encore l'amour lucide d'en haut. Et je fais remarquer au passage que la manière dont elle intervient, nous aurons peut-être l'occasion de le réévoquer en conclusion demain matin, mais je le dis au passage, est aussi pleine d'humilité. J'ai compté dans cette partie directement consacrée à l'intervention d'Abigail six fois le mot servante. Six fois. Et dans ces six fois, au verset 24, permet à ta servante de parler à tes oreilles, écoute les paroles de ta servante. Puis au verset 28, la faute de ta servante. Puis au verset 31, souviens-toi de ta servante. Dans tous ces passages, un mot hébreu particulier qui évoque l'esclave femme. Parce qu'il y a un jeu dans l'utilisation des termes. Au verset 27, accepte ce présent ou cette bénédiction que ta servante apporte. C'est un autre terme. Mais donc, dans la majeure partie de l'utilisation de ce mot, elle évoque l'esclave femme. D'ailleurs, ce qui sera dit au verset 41, elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. C'est-à-dire que quand elle se présente devant David, elle ne se présente pas pour lui laver la tête. Mais elle se présente comme la servante qui lave les pieds. Et ça, c'est important. Ça, c'est important quand nous ferons allusion à la démarche dans les Écritures de ce qu'on appelle la répréhension. Parce que la particularité d'un Samuel 25, c'est que Abigail joue sur deux tableaux à la fois et elle ne peut le faire que parce qu'elle n'est pas coupable. Disons-le. Si vous êtes coupable, que vous allez demander pardon, vous n'allez pas passer un savon, ni faire des reproches, même s'il y a culpabilité de l'autre côté. Hein? On ne va pas demander pardon en se disant, ben tiens, je vais en profiter pour lui dire que, qu'après tout, si lui, vous comprenez, on règle sa propre responsabilité. Le reste, c'est une affaire entre Dieu et l'autre. Mais on n'est pas là pour remonter les bretelles de celui à qui on demande pardon. Mais il se trouve que Abigail n'est pas dans cette situation. Et donc elle peut, et c'est encore là la beauté du caractère d'Abigail, elle peut faire les deux. Alors d'une part, elle plaide coupable de tout son cœur avec une humilité, l'esprit du serviteur. Elle n'hésite pas à appeler David 13 fois « mon Seigneur ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'elle fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas agresser David dans sa démarche, pour qu'il comprenne qu'elle est sincère, qu'elle accepte d'être vraiment la servante humble et humiliée à cause de son péché, celui qu'elle a pris sur elle, celui de son mari. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et c'est dans cet esprit-là que, bien sûr, elle veut éviter les dégâts, c'est-à-dire la mort de toute une famille avant la lumière du matin, mais aussi à plus long terme, verset 31, les remords, la mauvaise conscience du vengeur, verset 31, littéralement, le trébuchement de cœur. Hein, mon Seigneur n'aura ni remords, ni littéralement trébuchement de cœur. Et puis la réprobation divine, le blocage spirituel, voyez, elle sait qu'en réalité, à ce moment-là, dans ce qu'elle est en train de vivre avec David, c'est tout l'avenir royal de David qui est en jeu. David peut très bien être disqualifié s'il continue sur ce chemin-là. Il aura du sang sur les mains. Vous comprenez? D'où l'importance de la démarche et l'amour de cette femme, n'est-ce pas? qui non seulement veut protéger sa propre famille, mais qui en même temps veut placer David dans une situation où Dieu ne va pas le sanctionner et où son cœur va pouvoir rester en paix. Il n'y aura pas de trébuchement de cœur. Alors ça, c'est intéressant, parce que David était en train de se conduire comme Nabal, en insensé. Or, qu'est-ce qui est arrivé à Nabal pour s'être conduit en insensé? Verset 37, le cœur de Nabal reçut un coup mortel, littéralement son cœur mourut en lui, et il devint comme une pierre. Il reçut un coup au cœur et il devint comme une pierre, dit le texte. C'est-à-dire que manifestement, il y a eu là sans doute un infarctus avec tout un problème vasculaire, produisant en tout cas au moins une hémiplégie, sinon plus. Et ce qui me bouleverse, c'est que le texte dit que c'est environ 10 jours après seulement que l'Éternel frappa Nabal et qu'il brûle. C'est-à-dire que Dieu a donné à Nabal le temps de la grâce. Et moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé toutes ces dernières années dans les Écritures, de voir comment Dieu a donné le temps de la grâce à ses pires ennemis. Je pense à Nebuchadnezzar, quand Daniel lui explique le songe, et dans le fond, Dieu va donner à Nebuchadnezzar une année pour changer d'attitude. Et c'est parce que pendant une année, Nebuchadnezzar ne changera pas d'attitude qu'alors il va être frappé d'une forme de démence relativement connue dans l'histoire, n'est-ce pas? Habituellement la lycanthropie, mais ça c'était pour les loups, mais là c'est sous forme de bœuf, hein, et c'est la mentalité d'un bœuf qui broute un petit peu partout. Pour un grand roi, ça faisait un peu drôle, n'est-ce pas? Mais moi je suis bouleversé quand je découvre, n'est-ce pas, la grâce de Dieu qui veut dans cette situation tragique atteindre le cœur de cet insensé pour qu'il se repente. Eh bien, ce qui est arrivé à Nabal aurait très bien pu arriver à David. Le trébuchement du cœur. Et cela me fait penser à l'honnêteté bienfaisante d'un cher ami qui est auprès du Seigneur depuis le 9 octobre 2000, avec lequel j'ai eu beaucoup de joie à collaborer pendant un certain nombre d'années, à partir de l'année 71, je crois, dans un comité, dans d'autres domaines. Il s'agit de ce cher frère Marcel Tabayou, de Grenoble, qui, le 28 février 1981, a vécu un événement qui a été le grand tournant de sa vie. Et il a écrit à quelques amis un courrier dans lequel il a donné son témoignage. Je vous lis simplement un extrait. Depuis 1974, des signes négatifs apparaissaient sur mes électrocardiogrammes. Fatigué, surchargé, pressé de tous côtés dans mon ministère local et national, il a suffi d'une forte émotion que, je dois le confesser humblement devant vous, n'était malheureusement pas à la gloire de Dieu pour déclencher l'infarctus. C'est au cours d'une communication téléphonique que je me suis emporté. Et comme la colère ne sert jamais l'œuvre de Dieu, celle-ci a failli me tuer. C'est arrivé le 28 février, donc 1981, au matin. Et cet infarctus fut si grave que le médecin informa mon épouse que je ne devais pas passer les 48 heures. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a pardonné et m'a béni au-delà de tout ce que j'avais vécu jusqu'alors. Ce fut l'occasion pour moi de vivre ce face-à-face avec lui que j'avais si souvent prêché, mais qu'en fait je réalisais si mal dans ma vie. Le premier face-à-face eut lieu au moment de ma crise, alors que je ressentais une vive douleur, j'eus une vision. Comme dans un film, je revis toute ma vie passée, plus précisément l'œuvre que j'avais accomplie pour Dieu. Après tout, N'était-ce pas cela ma vie? Travailler pour Dieu au service des hommes, en particulier par le ministère d'évangélisation. Et ce fut la première grande révélation de Dieu pour moi. Combien de temps avais-je passé dans sa présence pour cultiver son intimité, chercher à voir Jésus, pour le contempler, l'adorer dans son Saint-Temple? Oh, bien sûr, j'avais parfois des moments pleins de bonheur dans sa présence, mais c'était loin d'être suffisant pour satisfaire l'amour de Dieu. Je compris alors qu'il ne fallait pas seulement servir les hommes pour lui, mais l'aimer lui, chercher à le connaître toujours mieux. N'est-ce pas là le but de la vie éternelle? C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Ainsi donc, j'avais manqué le premier but de ma vie et j'avais très probablement négligé mon premier amour. Je m'arrête là. Et vraiment, ce cher frère a été en riche bénédiction par la suite. Peu à peu, il a perdu ses forces parce qu'il avait le cœur partiellement nécrosé. Il a connu ensuite un accident de voiture grave qui l'a encore handicapé davantage. Et je me souviens, il y a peu d'années que de cela, nous sommes allés le voir, mon épouse et moi, pour passer un moment près de lui. Il avait une lucidité spirituelle. Un amour pour Dieu, tellement chaleureux. Il avait tout un côté paralysé, une main inutilisable, il tremblait quelque peu de l'autre, mais il était bourré de questions sur la situation des églises en France, l'évangélisation, et il brûlait du désir d'écrire un livre sur l'évangélisation. Et finalement, Dieu l'a rappelé auprès de lui comme un petit bébé. Il s'est endormi dans la paix du Seigneur. Voyez, une colère. Une colère. Des chercheurs américains qui se sont fait piquer des dizaines et des dizaines de fois par des abeilles, alors c'est intéressant pour l'un d'entre nous, apiculteur de son état. Et au cours de leurs expériences, ils ont conclu que plus vite, je cite, on retire le dard, plus vite la douleur cesse, parce que le dard continue à distiller son venin, même séparé du corps de l'insecte. Il faut faire vite, dit cette citation que j'ai sous les yeux. Alors nous devons maintenant d'actualiser. Oh, nous l'avons fait indirectement jusqu'ici. Mais nous allons le faire de manière beaucoup plus directe pour chacun d'entre nous maintenant. Et nous voulons ici évoquer ce que j'appellerais la charrue de la rancune. La charrue de la haine. Cette charrue qui creuse des ornières. Et ce sera la dominante de notre réflexion jusqu'à notre conclusion demain matin. La charrue de la rancune qui creuse des ornières dans le monde de nos pensées. Avec tout ce que cela signifie comme problème, cortège de malheur. Un homme de Dieu qui écrit sur le pardon fait cette remarque, telle une tique, l'offense s'accroche à notre mémoire. Elle se nourrit de notre sang et de notre énergie, interdit l'oubli, infecte notre blessure de haine et de rancune, elle plonge inévitablement le croyant dans la crise du pardon. Et je me souviens d'un retour d'une promenade ou d'une sortie où j'étais allé courir en forêt pour me dérouiller quelque peu et penser à autre chose. J'avais d'ailleurs ce jour-là, dans ma course en forêt, subitement au détour d'un chemin, fait face à une meute de sangliers. Mais vraiment, vous savez, à 2-3 mètres, mon cœur a fait un bond. Mais le chef qui était en tête a eu la bonne idée de faire un... Et puis hop, ils ont eu aussi peur que moi, c'était mon bonheur. Mais je n'étais pas au bout de mes peines ce jour-là, parce qu'en rentrant à la maison, j'ai pris un bain, et voilà qu'en prenant mon bain, je découvre qu'une tique était en train de disparaître. On ne voyait plus qu'un petit bout de son abdomen. Et hélas, nous étions ignorants en matière de soins avec les tiques. Et mon épouse et moi, nous nous sommes acharnés sur cette bestiole pour essayer de l'extraire avec toute la charcuterie que nous avons pu faire. Alors qu'il suffisait de l'endormir, puisqu'il y a divers moyens tout simples, n'est-ce pas, un peu d'éther, même du vernis à ongles, il faut peu de choses, et puis hop, n'est-ce pas, elle meurt, elle se détache. Et dans cette situation, eh bien, je suis un peu tombé malade. J'ai dû finalement prendre des médicaments à cause de la fièvre qui s'en est suivie. Il en est ainsi, telle une tique, l'offense s'accroche à notre mémoire. Esprit de vengeance, calomnie, amertume, haine, où tout le monde est éclaboussé. Et vous vous souvenez d'Éphésiens 4, 31, 32. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître de chez vous comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et un commentateur de ce verset décrire ceci: de l'amertume aux injures, telle va la haine en passant par la colère. Parfois cachée au fond de l'âme, elle se limite à l'irritation. Mais pour ceux qui ne se contentent pas de cette colère des faibles, ou qui ne la contiennent plus, le ressentiment s'exprime franchement, ouvertement, avec dureté, sans nuance, sans pitié, par la colère, les éclats et les injures. C'est pour cela que nous parlons d'ornière. C'est pour cela que nous parlons de charrue. Parce qu'il y a une escalade. Et Éphésiens 4 nous parle d'une escalade, où finalement aussi tout le monde finit par être éclaboussé. C'est l'entourage qui finit par souffrir de nos haines, de nos amertumes, de nos rancunes. Il me souvient, c'était le 14 mars 1989, lors d'un séjour en Guadeloupe aux Antilles françaises, où un jeune pasteur vient me chercher vers 12h20 dans la banlieue de Pointe-à-Pitre, la capitale, la préfecture même de cette île, pour m'emmener déjeuner chez des amis. Nous empruntons en voiture une ruelle étroite et subitement, à un virage, une voiture arrive en sens inverse. Et quand on connaît un peu les Antilles, on sait que le long de ces ruelles étroites, vous avez un caniveau très profond de chaque côté, parce que quand il pleut là-bas, il pleut. Cela veut dire impossible de se doubler ou de se croiser. Alors mon ami arrête, puisqu'il y avait une voiture devant lui, il regarde dans le rétroviseur, et il y avait une voiture derrière. Et nous sommes là, en sandwich, entre deux voitures conduites par de chers amis antillais. Je dis chers amis, je le pense maintenant, mais sur le coup je ne l'ai pas pensé, parce que chacun d'entre eux est sorti de sa voiture. Et ils se sont mis sous notre nez, sans du tout s'inquiéter de nous, à discuter l'un avec l'autre. Et puis la discussion a peu à peu tourné au vinaigre, et nous commencions à avoir la chair de poule parce que nous pensions qu'ils allaient en venir aux mains. Et puis subitement, l'orage a cessé. Et alors que nous étions en train de respirer quelque peu plus à l'aise en disant « ça y est, nous allons être libérés sous peu », pensez-vous, chacun des deux conducteurs est allé vers sa portière de voiture, l'a fermée à clé et est parti de son côté. Et donc, nous étions sous le chaud soleil de 12h30, 1h de l'après-midi, avec des amis qui nous attendaient, dans une voiture, prisonniers de la haine entre deux personnes que nous ne connaissions pas. Et nous avons fait ce qu'on fait dans ces situations, hein. Il y a des moments où on prie. Alors on a prié. Et puis comme les minutes s'écoulaient et sont devenues le quart d'heure, à un moment donné, nous nous sommes regardés l'un de l'autre et nous avons eu à peu près ensemble la même idée. Et l'un de nous deux a dit à l'autre, « Dis-moi, selon toi, qui était le moins méchant des deux ?» Et nous n'avons pas eu besoin de voter. Nous étions d'accord, celui de la voiture de derrière était vraiment moins méchant que celui de la voiture de devant. Alors, mon cher ami, Antillais, pasteur à côté de moi, est sorti de la voiture, il m'a laissé tout seul et il est parti à la recherche dans le quartier, là derrière, de celui qui était le conducteur de la voiture de l'arrière. Et au bout d'un moment, enfin, le conducteur est revenu et en l'espace de 30 secondes, nous étions libérés de cette prison très chaude et empruntant un autre itinéraire, nous rejoignions les amis qui nous attendaient. Mais voyez, prise en otage, dans une querelle. Qu'est-ce que vous voulez, hein? On y était pour rien. On était simplement là à ce moment. Et combien de fois, mes bien-aimés, dans nos vies de famille, dans nos vies relationnelles, dans nos vies d'église, dans nos vies d'équipe, dans notre vie professionnelle, nous subissons les conséquences de la haine, ou encore nous générons des conséquences de nos rancunes dans la vie de ceux qui nous entourent. Destruction de celui qui est, la haine et la rancune disloquent la personnalité de celui qui est, elles provoquent de nombreuses blessures internes, mauvaise conscience, infection de l'âme, endurcissement du cœur, voyez, ces ornières qui peu à peu se creusent dans le monde de nos pensées. Nous devenons des Nabal. Je pense au futur roi Hassan II, lorsqu'il était encore adolescent, et qui multipliait les frasques, vie désordonnée d'un riche adolescent. Et son père, Mohamed V, s'était ému de cette situation, il avait un jour fait venir au palais, lui avait montré une belle planche d'ébène. En lui disant, tu vois cette planche, à la surface parfaitement lisse, chaque fois que tu me commettras une faute, j'y planterai un clou d'or. En revanche, chaque fois que tu corrigeras tes erreurs, j'enlèverai un des clous d'or. Et ainsi que le roi le supposait, la planche commença à se consteller de clous d'or, correspondant à autant de faux pas du prince. Puis, la sagesse et l'âge venant, quelques clous disparurent, puis finalement, l'ébène devint totalement libre. « Père, voilà mes fautes effacées, » dit un jour Hassan à sa majesté. « Comment peux-tu croire cela? Certes, les clous sont partis, mais leurs traces demeurent. » Et mes amis, ça, ce sont les conséquences de nos péchés, même une fois que nous sommes pardonnés. Nous sommes d'accord. Il y a des conséquences à nos fautes, surtout, en plus, si elles sont graves, même une fois que nous sommes pardonnés. D'ailleurs, sinon, nous n'apprendrions rien. Mais il faut ajouter que plus nous creusons des ornières de rancune, plus nous blessons nous-mêmes avant que les clous ne soient ôtés. Pas besoin d'attendre que les clous soient ôtés. Les blessures sont déjà en train de se faire profondes et de plus en plus profondes, et vous verrez quelle implication ça a dans notre étude de conclusion demain matin. Quelqu'un écrit ceci: dès l'instant où je commence à haïr quelqu'un, je deviens son esclave. Je ne peux plus prendre plaisir à mon travail parce qu'il contrôle jusqu'à mes pensées. L'homme, objet de ma haine, me poursuit où que j'aille. Je ne puis échapper à son emprise tyrannique sur mon esprit. L'homme que je hais peut se trouver à des lieues de ma chambre à coucher, mais plus cruel que n'importe quel marchand d'esclaves, il fouette mes pensées avec une telle frénésie que mon matelas à ressort en devient un instrument de torture. Le dernier des esclaves peut dormir. Moi, non. Je suis contraint de reconnaître que je suis réellement l'esclave de celui sur qui je déverse ma colère. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là, Proverbe 15-17. Et dans un des ouvrages remarquables de Martin Luther King, dont je ne partage pas toute la théologie, loin de là, mais dont j'ai admiré le courage dans le comportement. Martin Luther King écrit ceci: rendre haine pour haine multiplie la haine, ajoutant une obscurité plus profonde encore à une nuit déjà privée d'étoiles. L'obscurité ne peut chasser l'obscurité, seule le peut la lumière. La haine ne peut chasser la haine, seul le peut l'amour. La haine multiplie la haine, la violence multiplie la violence, la brutalité multiplie la brutalité en une spirale descendante de destruction. La haine est tout aussi néfaste à la personne qui hait. Comme un cancer caché, la haine corrode la personnalité et en abolit l'unité vitale. La haine détruit en l'homme le sens des valeurs et l'objectivité. Elle conduit à décrire le beau comme laid et le laid comme beau, à confondre le vrai avec le faux et le faux avec le vrai. Mes amis, la haine et la rancune, c'est comme ces fils de toile d'araignée. Au début, il n'y en a qu'un. Et ensuite, ça devient plus solide que la plus solide des cordes pour nous emprisonner. Et puis, il y a le risque de l'hypocrisie. Il y a le risque de l'hypocrisie pour ceux qui ne veulent pas faire vite. Avec les rancunes, les haines, les amertumes. L'hypocrisie, pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut mettre son masque. Il faut mettre son masque pour que les autres ne sachent pas. Comme on dit, quand on a un peu d'amour propre, est-il si propre que cela, cet amour ? On ne veut surtout pas que les autres sachent, surtout si on est évangélique, membre de l'église de tel endroit. Puis alors si on est pasteur, ancien, responsable de jeunesse, on met son masque pour préserver sa dignité spirituelle. Les conflits qui traînent amène la tentation de la duplicité. Je vais peut-être me déguiser un peu en la bruyère, tellement doué pour décrire les caractères. Mais vous imaginez le couple de croyants mariés, converti à Jésus-Christ, membre engagé dans telle église, qui un jour dérape dans une querelle au départ bénigne, mais qui au fil des minutes se complique, dont la tonalité monte, les décibels atteignent des sommets, les injures finissent par pleuvoir, quand ce ne sont pas certaines soucoupes volantes, objets parfaitement identifiables, qui traverse l'atmosphère de l'endroit. Et alors que la querelle est à son paroxysme, voilà que l'on sonne à la porte. Alors l'un des deux, généralement l'épouse, avance en catimini jusqu'à la porte d'entrée pour voir d'où l'on ne peut être vu qui est à l'extérieur. Elle est immédiatement décomposée, se précipite vers son mari et lui dit « Oh, c'est le frère et la sœur untel de l'église !» Une métamorphose s'opère. Elle file dans son boudoir pour se mettre un petit peu de bonnes choses par là, tandis que lui se refait la coiffure, redresse la cravate, et il se retrouve dans le couloir, se donnant le petit doigt long là, comme au plus beau jour des grands amours. On ouvre la porte, et avec un sourire digne des dentifrices les mieux prisés à la chlorophylle. Quel bonheur de vous accueillir, chers amis. Mais prenez donc la peine d'entrer. Quelle bonne idée avez-vous eue. Et on les introduit, on les installe au salon, sur le canapé. On réserve les deux fauteuils de part et d'autre pour pouvoir se faire des signes par avion. On sert le café ou le thé ou les deux. Et les petits gâteaux. Et on devise sur tout et rien, mais aussi sur la vie de l'église, sur la prédication du dimanche précédent, sur tous les potins. Hein? Et puis, on n'oublie surtout pas de prier. Et l'heure est venue de se quitter. On se redonne le petit doigt. On raccompagne le couple de ses chers frères et sœurs. La porte se referme et deux scènes se produisent simultanément, l'une dedans, l'autre dehors. Dedans, les objets volants identifiés ont recommencé leur parcours céleste. Je ne vous dis pas le reste. Dehors, le petit bout de femme, à côté du grand mari, qui regarde le mari qui lui dit « Chérie,
ouais.
J'aimerais te dire quelque chose.
Vas-y.
Tu sais, j'espère que tu vas pas le prendre mal.
Mais vas-y, parle.
Tu as vu, chérie.
Ben quoi?
Tu as vu comme il se donnait le petit doigt. T'as vu comme il s'aime. Ça fait si longtemps que nous, on ne sait plus donner le petit doigt. Comprenez? C'est du la bruyère, hein? C'est volontairement placé sous la loupe. Mais est-ce que c'est pas vrai, hein, quelque part? Ces disputes qui commencent parfois le samedi, hein, et qui débouchent sur une véritable explosion volcanique le dimanche matin. Hein. Quand nous avions tous nos enfants à la maison, le dimanche matin, nous appelions cela le dimanche matin peau de banane. Parce qu'alors... Quand vous devez vous occuper de quatre enfants à la fois le dimanche matin pour partir être à leur occulte, vous avez tout préparé la veille, mais curieusement, il manque quand même la chaussette qui ne devrait pas manquer. Le lait a l'occasion comme jamais de passer par-dessus et le téléphone sonne 36 fois, on ne trouve pas qui sa Bible, qui je ne sais pas quoi, et on se chamaille. Et parfois, ça monte. Et il y a des mains qui oublient de se contrôler. Et puis, subitement, on se précipite dans la voiture le plus vite possible, on se retrouve entassé dans la voiture, et un miracle s'opère, mes amis. Vous croyez au miracle? Moi, j'y crois, à cause de ça. Les enfants commencent à voir une auréole se dessiner derrière la tête de papa et des ailes pousser dans le dos de maman. Ils sont à l'arrière, les parents sont à l'avant, et curieusement, le caractère est en train de changer. Et plus on approche de la rue dans laquelle se situe l'église, plus le caractère des parents est angélique. remarque, les enfants n'en croient pas leurs yeux, n'est-ce pas? Ils viennent de recevoir de ces ouches-là, avec des mots tellement bien appropriés, ils n'en reviennent pas. Et alors, vous savez, quand on entre dans la dernière rue de l'église, où toutes les voitures convergent, où il y a des gens sur le trottoir, alors, vous savez, les ailes ont poussé, ouais. Et on entre à l'église. Alors, comment ça va? Mais ça va très bien, chers amis. Les enfants sont derrière qui disent, oui, oui, tu peux toujours causer. Hein, moi, je la sens encore. Hein. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Ouais. Vous savez, si je vous le dis comme ça, c'est parce qu'on l'a vécu. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Apprendre à régler tout de suite. Apprendre à régler tout de suite. Bien sûr, le mieux encore, c'est d'apprendre à être patient. Mais apprendre à régler tout de suite. Combien cela est important. D'autant plus, et nous allons terminer là-dessus, d'autant plus que les problèmes se compliquent toujours avec le temps. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Les problèmes se compliquent toujours avec le temps. Ça démarre tout petit. Ça finit parfois par un crime. J'ai ici sous les yeux l'histoire, et c'est un avocat qui la raconte, d'un couple qui, en Angleterre, a vécu comme partenaire silencieux pendant 12 ans. Pendant 12 ans, on a vécu dans ce couple de manière à ne jamais avoir à se rencontrer. Lorsque l'un entrait dans la maison, l'autre en sortait. Lorsqu'ils communiquaient l'un avec l'autre, c'était par des notes. Et ceci, après avoir vécu heureux ensemble pendant les 18 premières années de leur mariage et avoir élevé un fils. Au cours des 12 dernières années, ils ne s'étaient jamais parlé. Toutefois, et ça c'est ce qui estomaquait l'avocat, ni l'un ni l'autre ne pouvaient se rappeler pourquoi ils s'étaient chicanés. Petite souris qui accouche d'une grande montagne. Combien de fois c'est comme ça? Parce qu'on commence à interpréter. On interprète tout quand on est en querelle avec quelqu'un. On voit des fautes derrière le regard, derrière la position de la bouche, derrière les oreilles qui bougent et tout le reste. Partout, on imagine. Et c'est pourquoi lorsqu'on règle vraiment les problèmes, on est parfois très surpris de réaliser qu'on a soupçonné le mal partout. L'autre dit, mais jamais j'ai pensé ça. Jamais quand je t'ai dit ça, je ne le pensais pas. Vous connaissez C.S. Lewis, ce philosophe évangélique qui a écrit notamment le livre La tactique du diable. Très intéressant. Et dans ce livre, il met en scène deux démons chargés d'exciter une querelle de manière subtile pour amener cette querelle à son paroxysme. Voilà un des conseils donnés par leur patron, le diable, à ces deux sinistres chargés de mission. Chez les gens cultivés, lors des querelles domestiques, la haine s'exprime généralement par des paroles qui, mises par écrit, paraîtraient anodines. Les mots en soi ne sont pas blessants. Mais qui, par le ton de la voix et le moment choisi pour les dire, font l'effet d'une gifle en plein visage. Pour que ce jeu se poursuive, Glubos, c'est le nom d'un des démons, et toi, c'est fictif, hein, bien sûr, vous veillerez à ce que vos imbéciles aient chacun deux poids et deux mesures. Il faut que ton protégé insiste pour que chacune de ses paroles soit prise au pied de la lettre, alors qu'il interprétera chaque remarque de sa mère avec une sensibilité maladive, d'après l'intonation de sa voix, le contexte et les intentions qu'il lui prête. Et il faut encourager sa mère à faire de même avec lui. Après chaque dispute, ils pourront ainsi se séparer, convaincus ou presque de leur innocence respective. Tu connais ce genre de propos ? Je ne fais que lui demander à quelle heure le dîner sera servi et la voilà qui monte sur ses grands chevaux. Une fois l'habitude bien prise, tu auras devant toi un homme qui dira des choses avec l'intention évidente de blesser, mais qui fera grief à l'autre de mal prendre ce qu'il a dit. Et je voudrais là vous donner un exemple qui nous a fait beaucoup de peine. Nous suivons tout au long de notre ministère un certain nombre de couples en difficulté pour essayer de les aider au maximum. Et dans une lettre reçue du mari d'un de ces couples que nous avons essayé d'aider, le mari nous écrit ceci. Il y a 8 jours, j'ai reçu mon épouse au domicile conjugal. Il nous fallait prendre une décision. La possibilité de reprendre la vie conjugale nous paraissait être le bon choix. Après avoir écouté les conseils de mon ami et ceux du père de mon épouse, je ne pouvais qu'admettre que rien ne justifiait notre séparation. Elle désirait travailler, cela impliquait de nombreux inconvénients pour le bien-être de notre enfant, un petit chou, une petite fille, à l'époque de 2 ans à peu près, même pas. Mais j'avais fini par accepter le choix de mon épouse. Nous réconcilier et considérer les nouveaux choix de chacun, cela semblait relever du bon sens et j'étais prêt à repartir de bon pied avec mon épouse. Puis, l'impensable s'est produit, un mot mal compris. Peut-être moins que cela, quand on veut absolument chercher querelle à l'autre. Rien n'a pu arrêter le scénario catastrophe, celui de la bêtise qui a suivi. Insulte, grossièreté, et pour conclure ce chapitre où le meilleur acteur ne fait pas dans le détail, puisque ma femme a jeté sa bague de mariée dans la cuvette des toilettes. J'écrivais dans ma dernière lettre, je vais quitter le navire, et je peux vous assurer que c'est désormais chose faite. Ils sont deux croyants, authentiques. Et je vous fais remarquer à nouveau qu'il écrit, je ne pouvais qu'admettre que rien ne justifiait notre séparation. Escalade. Escalade. Souvenons-nous de nos escalades. Escalade qui creuse des ornières en profondeur dans tout notre système de pensée, qui installe en nous des habitudes de pensée. Alors, nous allons nous arrêter là, ce matin, pour que notre dernière ligne droite, demain matin, nous permette de souligner avec force la solution de Dieu à mettre en œuvre dans nos vies, nous permettre de souligner la beauté de la réponse de David, la manière dont il a accueilli, et nous permettent de mettre en évidence simplement 3 freins, 3 obstacles que nous rencontrons continuellement face à cette question du pardon. 3 réflexions qui bloquent ceux qui doivent s'engager sur la voie du pardon et qui disent certaines choses pour ne pas le faire. Et c'est là-dessus que nous terminerons heureux, j'en suis persuadé, de marcher dans la direction d'Abigail et dans la direction de David, qui l'a si favorablement accueilli.